d'être avec nous ce soir. Je rappelle que vous êtes ambassadeur honoraire de Belgique et professeur de relations internationales à l'UC Louvain. Est-ce qu'on peut clairement parler de sommet historique ce soir?
Oui, c'est un sommet historique parce que les deux dirigeants en question se rencontrent rarement et qu'en plus, dans le cas de Poutine, c'est une manière de réintégrer la communauté diplomatique internationale. Donc c'est historique, d'autant que le format même de la rencontre est très particulier. Ce n'est pas seulement un tête-à-tête, il y a des délégations de part et d'autre, 5+5, et donc c'est tout un agenda important et bilatéral qui va être discuté à cette occasion.
Et vous restez bien entendu avec nous pour commenter ce sommet très attendu qui débute vers 21h30 heure belge. L'Ukraine sera donc au cœur des discussions entre les deux hommes, une rencontre à laquelle Volodymyr Zelensky n'a pas été convié. Le président américain affirmait hier qu'il y a 25% de chances que cette réunion soit un échec. Lax Milota avec Elisabeth Wouters.
Le président américain est en route pour l'Alaska. Face aux journalistes, à bord de son avion Air Force One, Donald Trump s'est une nouvelle fois présenté comme candidat idéal au prix Nobel de la paix.
Je ne fais pas ça pour ma santé, je n'en ai pas besoin. J'aimerais me concentrer sur notre pays, mais je fais ça pour sauver de nombreuses vies.
Un voyage de 7 heures environ, un peu plus pour le président russe qui a donc fait une escale à Magadan dans l'est de son pays. Vladimir Poutine en a profité pour visiter une usine d'huile de poisson. Puis, geste hautement symbolique, le chef de l'État a déposé des fleurs au pied d'un monument qui commémore la coopération américano-soviétique durant la Seconde Guerre mondiale. D'autres membres de la délégation russe sont déjà arrivés à Anchorage.
Nous avons des arguments et une position très claire que nous allons expliquer.
L'Ukraine n'est pas conviée, mais on entend sa voix dans la plus grande ville d'Alaska, 280 000 habitants. Une manifestation est organisée.
Ça ne me plaît pas que notre gouverneur invite un criminel de guerre dans notre État.
On ne peut pas négocier sans avoir toutes les parties.
Nous avons ici deux hommes dans la pièce et aucun d'eux n'est fiable.
Donald Trump s'est personnellement investi dans cette mission. Il estime ses chances de réussite à 75% et imagine déjà une deuxième réunion, incluant le président ukrainien Volodymyr Zelensky cette fois. C'est sur le tarmac d'Anchorage que Donald Trump et Vladimir Poutine se retrouveront à 21h heure belge. La rencontre dans la base militaire durera au moins 7 heures selon Moscou. Si tout se passe bien, elle s'achèvera par une conférence de presse conjointe.
Cette image qui s'affiche date de 2019 entre les deux présidents. C'est la dernière fois qu'ils se sont vus en face à face. Alors aujourd'hui, on l'imagine, on s'attend à des discussions qui seront particulièrement tendues. Que vont-ils se dire ?
Je crois que l'un comme l'autre, ils ont besoin quand même d'un résultat. Alors, ça a l'air peut-être un peu trop optimiste ce que je dis. Mais on ne fait pas ce déplacement jusqu'en Alaska, rien que pour se parler de vive voix, alors qu'ils se sont, depuis quelques mois, échangés des coups de téléphone qui, malheureusement pour Trump, n'ont jamais abouti à un résultat concret. Donc qu'est-ce qu'ils vont se dire? Je pense que du côté russe, il y a quand même cette carotte que tendent les Américains, à savoir on va vous réintégrer dans la communauté internationale, on va peut-être encourager des investissements américains en Russie, on va lever les sanctions, donc quelque part on va normaliser la Russie. Je rappelle quand même que Poutine fait l'objet d'un mandat d'arrêt de la Cour pénale internationale et que les Européens, et c'est une autre question, mais se refusent à lui parler pour le moment, alors que la diplomatie, vous savez, en général, c'est quand même de parler à ses ennemis. Que veut Trump? Alors les gens disent, ah oui, il veut le prix Nobel de la paix. Non, c'est un peu facile. C'est vrai que depuis quelques mois, vous aurez constaté qu'il y a des médiations américaines qui ont plutôt réussi, entre le Rwanda et la RDC, entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie, etc. Non, il veut du business. Et si vous voulez faire du business, il faut rétablir une forme de stabilité en Europe et dans le reste du monde. Donc la paix, mais la paix pour faire des affaires. Après, quant aux résultats qu'il faut espérer, et peut-être qu'on pourra détailler cela, si on arrivait à dresser les contours de ce qui pourrait être un cessez-le-feu, ce serait déjà un beau résultat. qu'ils pourraient annoncer lors de leur conférence de presse.
Ce qui est particulier aussi dans cette rencontre, ce sont les délégations qui accompagnent à la fois le président américain et le président russe. Aucun militaire n'est représenté.
Aucun militaire. Il semble que le directeur général de la CIA sera présent du côté américain. Aucun militaire, ce qui ne veut pas dire que la question ukrainienne sera réglée en quelques mots, mais c'est une approche, comme on dit en anglais, business-minded, c'est-à-dire que du côté américain, on va faire miroiter des investissements, notamment dans les terres rares, ce qui intéresse tant les Américains que les Russes, parce que la majorité des terres rares sont en Chine, par exemple. Et d'autres types de coopération. Alors, l'économie russe souffre, malgré tout, les sanctions européennes pèsent. On parle d'économie de guerre en Russie, il n'en reste pas moins que Poutine a probablement intérêt, non pas à faire la paix, je ne crois pas dans les intentions pacifiques du président russe, mais sans doute à se donner un certain répit. Et je crois que c'est ce que le président américain va tenter d'obtenir. Vous savez, c'est la formule que l'on utilise souvent quand on se réfère à l'histoire, les cessez-le-feu peuvent durer très longtemps. Regardez l'exemple des deux Corées. Ils ont un cessez-le-feu depuis 1953. Et un cessez-le-feu, c'est un terme militaire.
On sent qu'il y a effectivement un certain risque d'échec. Ce qui est sûr, c'est que les yeux du monde entier seront tournés ce soir vers cet État américain où vont se dérouler les négociations. L'Alaska n'a pas été choisi par hasard. C'est un lieu stratégique à la fois pour Vladimir Poutine et Donald Trump. Explication de Charlotte Simonard.
L'Alaska, le plus grand État des États-Unis, niché au nord-ouest du Canada. Rendez-vous est pris ici, sur cette base militaire américaine, proche d'Anchorage, un site ultra sécurisé. Le lieu est avant tout stratégique, à la frontière entre les États-Unis et la Russie. Séparé d'à peine 80 km, soit la largeur du détroit de Bering, mais aussi isolé du reste du monde, à 9200 km de Kiev, de quoi garder à distance aussi les rivaux européens. Vladimir Poutine évite ainsi le survol d'espaces aériens ennemis. Un lieu également symbolique, car l'Alaska appartenait à la Russie jusqu'en 1867, vendu à l'époque aux États-Unis pour un peu plus de 7 millions de dollars. Vladimir Poutine s'apprête donc à faire ses premiers pas sur le sol occidental depuis le début de la guerre en Ukraine. Sous le coup d'un mandat d'arrêt de la Cour pénale internationale, le chef du Kremlin ne risque pas d'y être arrêté, car les États-Unis ne reconnaissent pas la CPI.
C'est donc bien la fin de la guerre en Ukraine qui est sur la table des négociations, Raoul Delcorde. Quels scénarios sont possibles à l'issue donc de ce sommet ?
Alors, les contours d'un cessez-le-feu, mais vous savez, ça ne se décrète pas d'un coup de baguette magique. Il faut délimiter très précisément la ligne de cessez-le-feu. Qui va surveiller ce cessez-le-feu ? Est-ce qu'il y aura une force d'interposition, comme entre les deux Corées ? Qui va sanctionner les éventuelles violations de ce cessez-le-feu ? Et donc, l'hypothèse, d'une réunion à trois, parce qu'à un moment donné, quand même, lorsqu'on parle de l'Ukraine, il est temps que le président ukrainien soit invité. Pour reprendre une formule, l'Ukraine est au menu, mais n'est pas à la table. L'Ukraine doit donc être à la table. Et de ce point de vue-là, les Européens ont bien joué. Il y a quelques jours, ils ont envoyé un signal très clair à Trump. On fait corps, l'Ukraine ne peut pas être isolée. Et il n'en reste pas moins que la mise en place de ce cessez-le-feu prendra du temps avant une possible réunion à trois.
Et autre question très cruciale ce soir, on sait que ces derniers jours, la Russie a conquis du terrain à l'est de l'Ukraine, elle a conquis certaines localités. D'où cette question, l'Ukraine va-t-elle accepter de céder ces territoires à la Russie, selon vous ?
Je crois que c'est tout à fait hors de question pour l'Ukraine. Comment le justifier sinon le sang versé par tant d'Ukrainiens pour défendre leur territoire ? Votre question m'amène d'ailleurs à rectifier une formule que l'on utilise parfois. L'Ukraine et la Russie vont échanger des territoires, dit-on parfois. Mais non, l'Ukraine n'a aucune prise sur les territoires russes. Il ne s'agit absolument pas d'un échange. On va essayer de geler une situation. Mais la souveraineté ukrainienne sur le Donbass ne sera jamais remise en question.
Voilà pour cette analyse en direct. Merci beaucoup.
Un Ukrainien est en train de filmer quand apparaît ce soldat affaibli, seul sur la ligne de front. Les Russes viennent de s'emparer de la zone dont la localisation n'est pas précisée. Il serait le seul rescapé de son unité. un membre de l'équipe qui pilote le drone, raconte.
Nous nous sommes approchés de lui avec le drone et avons immédiatement vu qu'il portait l'uniforme d'un soldat ukrainien. Lorsqu'il a réalisé que le drone au-dessus de lui n'était pas russe, il nous a montré qu'il n'avait plus d'eau.
Le pilote explique. Il décide alors d'envoyer un autre drone pour lui déposer une bouteille d'eau, mais aussi une lettre avec cette instruction « Suis le drone ».
Lorsqu'il croisait des positions russes, elles étaient parfois très proches. Une autre équipe de drones les survolait pour les effrayer et les pousser à se cacher, comme ça ils pouvaient passer sans être repérés.
Le soldat ukrainien s'en sort. On le voit rejoindre une autre personne, sans doute un soldat. Des images qui auraient été tournées il y a 2 semaines.